بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فلا زال الحديث مع الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله عليه، وغفر الله له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Donc nous continuons toujours l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et aujourd'hui nous sommes arrivés au 18e hadith. فعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Donc d'après Abi Dharr, Jundub ibn Junadah, et d'après Abi Abdurrahman, Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah azza wa jal où que tu sois, et fais suivre une mauvaise action d'une bonne action, elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Et le hadith est rapporté par Tirmidhi. Il dit c'est un hadith hasan, et il est aussi rapporté que c'est un hadith hasanun sahih. الأمر الأول ترجمة راويي الحديث. Le premier point que nous allons voir, c'est la biographie des deux rapporteurs du hadith. وراوي الحديث هما جندب بن جنادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. Et les rapporteurs du hadith sont جندب ابن جنادة ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما. فأما الراوي الأول فهو جندب ابن جنادة وكنيته أبو ذر وهو من قبيلة غفار رضي الله عنه. Pour ce qui est du premier rapporteur du hadith, il s'agit de Jundub ibn Junadah, et sa kunya est Abu Dharr, et il fait partie de la tribu de Rifar. Aslama bi Makkata wa huwa min as-sabiqin al-awwalin ila al-islam. Yaqulu Abu Dharr radiyallahu anhu: kuntu rub' al-islam aslama qabli thalathatun wa ana ar-rabi'. Wal hadith fi Sunan ibn Hibban. Et Abu Dharr radiyallahu anhu s'est converti très tôt à l'islam, et il fait partie des premiers, parmi les premiers, de ceux qui ont embrassé l'islam. Abu Dharr radiyallahu anhu dit de lui-même: j'étais le quatrième musulman et trois personnes s'étaient converties à l'islam avant moi. Et le hadith est rapporté par Ibn Hibban. Wa ba'da islamihi radiyallahu anhu raddahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila qawmihi fi ghifar yad'uhum ila al-islam. وأسلمت قبيلة غفار كلهم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه وجاهد معه. Et après sa conversion à l'islam, رضي الله عنه, Abu Dharr رضي الله عنه a été renvoyé par le prophète صلى الله عليه وسلم à son peuple pour les appeler et les prêcher à l'islam. Et après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine, toute la tribu de Rifar était convertie à l'islam par la grâce d'Allah. Et ensuite, Abu Dharr, radiyallahu anhu, a émigré vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, et il est resté assidu à la compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a même combattu avec lui. Et vous allez entendre plusieurs hadiths qui montrent ce que nous venons de dire. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم وجاء في صحيح مسلم أن قبيلة غفار قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها. Donc il a été rapporté dans plusieurs hadiths. Le premier hadith, c'est le hadith de Bukhari. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Abu Dharr, retourne à ton peuple, informe-les de l'islam et attends mes instructions. Et aussi dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dharr, vas-tu transmettre mon message à ton peuple? Peut-être qu'Allah azawajal fera de toi un bien pour ton peuple et il t'en récompensera. Et aussi dans Sahih Muslim, lorsque la tribu de Rifar s'est dirigée vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette invocation en disant qu'Allah pardonne à Rifar. وأبو ذر رضي الله عنه له مناقب كثيرة. Et Abu Dharr رضي الله عنه a beaucoup de vertus, beaucoup de mérites. اولا من مناقبه ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه. Parmi les mérites de Abu Dharr رضي الله عنه, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait des éloges à son égard. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر رضي الله عنه وهذا في سنن الترمذي. Il a été rapporté dans les sunan de Tirmidhi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la terre et le ciel n'ont pas porté ni abrité un homme plus véridique que Abu Dharr. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى عليه السلام فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي ذَرْ رضي الله عنه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut voir la modestie de Isa alayhi salam, qu'il regarde Abu Dharr et il verra en lui la modestie de Isa. Et le hadith a été authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, il se trouve dans le Musannaf de Ibn Abi Shayb. ثانياً من مناقبه أنه كان يحب الله ورسوله. Parmi les mérites de Abu Dharr, c'est qu'il aimait véridiquement Allah Azza wa Jal et son prophète. قال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا أبا ذر مع من أحببت فقال أبو ذر فإني أحب الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت يا أبا ذر مع من أحببت قال لها له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهذا في مسند الإمام أحمد. أبو ذر رضي الله عنه a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم en lui disant que dis-tu au prophète d'Allah d'un homme qui aime des gens mais qui ne fait pas leurs œuvres. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit oh Abu Dharr, tu es avec les gens que tu aimes. Alors Abu Dharr رضي الله عنه a dit eh ben j'aime Allah et j'aime son prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh Abu Dharr, tu seras avec ceux que tu aimes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété trois fois cette phrase. Et ce hadith est rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Thalithan min manaqibihi hirsuhu ala al-khayr. Troisièmement, parmi les mérites de Abu Dharr radiallahu anhu, c'est sa motivation, son acharnement à faire le bien et à vouloir le bien. An Abi Dharr radiallahu anhu, anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. يقول أبو ذر فقرها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. فقال أبو ذر وهذا يدل على حرصه خابوا وخسروا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والحديث في صحيح مسلم. Abu Dharr رضي الله عنه nous rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit la parole suivante. Il a dit: trois personnes Allah Azza wa Jal ne redressera pas la parole le jour de la résurrection. Ni il ne les regardera, ni il ne les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété ces phrases trois fois avec insistance. Et Abu Dharr radiallahu anhu a dit, et ceci montre l'acharnement et la motivation d'Abu Dharr, il a dit: ô prophète d'Allah, qu'ils soient perdus et ils ont échoué, qui sont ces gens? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui laisse traîner son vêtement, celui qui se vante de ses bienfaits, et celui qui écoule sa marchandise avec de faux serments. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Rabi'an min manaqibihi annahu awwalu man hayya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bi tahiyyati l'islam. Parmi les mérites de Abu Dharr radiallahu anhu, c'est qu'il est le premier à avoir salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les salutations de l'islam. جاء في صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه قال: كنت أنا أول من حياه أي حيا رسول الله بتحية الإسلام فقلت السلام عليك يا رسول الله. Donc il a été rapporté dans l'authentique de Muslim que Abu Dharr رضي الله عنه dit de lui-même: j'ai été le premier à avoir salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la salutation de l'islam. Je suis venu au prophète et je lui ai dit: assalamu alayka ya rasulallah. Et le hadith est dans l'authentique de l'imam Muslim. Wa tuwfiya Abu Dharr sanat 32 hijri wa lahu fi kutub al hadith 280 haditha radiyallahu anhu. Et Abu Dharr radiyallahu anhu est mort l'année 32 de l'Hijre. Et on retrouve dans les livres de hadith 280 hadiths rapportés par Abu Dharr. Voilà pour ce qui est de la biographie de Abu Dharr. Maintenant, nous allons voir la biographie de Mu'adh ibn Jabal. Wa amma ar-rawi ath-thani fa huwa Mu'adh ibn Jabal wa kunyatuhu Abu Abd al-Rahman wa huwa ansari min qabilati al-Khazraj. Pour ce qui est du deuxième rapporteur du hadith, il s'agit de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, et sa kunya et Abu Abd al-Rahman, et c'est un Ansari. Il fait partie des Ansar, plus exactement de la tribu de Khazraj. ودخل الإسلام وعمره 18 عاما وشهد بيعة العقبة الثانية وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه a embrassé l'islam alors qu'il n'avait que 18 ans. Et il a assisté au deuxième pacte de l'Aqaba. Et il a participé à la bataille de Badr et à toutes les expéditions et toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui montre la valeur de ce compagnon. وَلَهُ مَنَاقِبُ كَثِيرًا. Et Mu'adh ibn Jabal a énormément de mérite. أَوَلًا مَحَبَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَهُ. يقول Mu'adh ibn Jabal: أَخَذَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمًا بِيَدِي فَقَالَ لِي يَا مُعَاذ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ. وهذا في سنن أبي داود. Première vertu de Mu'adh ibn Jabal, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait. Mu'adh ibn Jabal nous dit: une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a saisi par la main et il m'a dit: par Allah ô Mu'adh, très certainement je t'aime. Et le hadith est rapporté dans Sunan Abi Daoud. ومن مناقبه ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل معاذ بن جبل. وهذا في سنن الترمذي. Et parmi les vertus de Mu'adh ibn Jabal, c'est les éloges faits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son égard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quel homme bien, quel homme bon Mu'adh ibn Jabal. Et le hadith est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi. ثالثا من مناقبه علمه بالكتاب والسنة وبالحلال والحرام. Troisièmement, parmi les mérites et les vertus de Mu'adh ibn Jabal, c'est sa science dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa science, sa connaissance dans le halal et dans le haram, dans le licite et l'illicite. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام Mu'adh ibn Jabal. وهذا في سنن الترمذي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui connaît le mieux dans ma communauté le halal et le haram, c'est Mu'ad ibn Jabal. On le retrouve dans Sunan al-Tirmidhi. Wa yaqulu Nabi sallallahu alayhi wa sallam istaqri'u al-Qur'an min arba'a min Abdillah ibn Mas'ud wa bada'a bihi wa Salim mawla Abi Hudhayfa wa Ubay ibn Ka'b wa Mu'ad ibn Jabal. Wa hadha fi sahih al-Bukhari. Et donc, il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, apprenez le Coran auprès de quatre personnes. De Abdullah ibn Mas'ud, et il a commencé par lui. De Salim, l'affranchi de Abi Hudhayfa, de Ubay ibn Ka'b, et de Mu'ad ibn Jabal. Et d'ailleurs, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, disait, si je devais nommer Mu'ad comme gouverneur, et qu'Allah me demande, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Je répondrais, Ya'ti Mu'ad ibn Jabal, yawm al-qiyamah, أمام العلماء برتوة. Il disait, je dirais à Allah Azza wa Jal, Mu'ad ibn Jabal se présentera yawm al-qiyama devant les savants d'une distance équivalente à un jet de pierre. Et ceci est rapporté dans Al-Mu'jam al-Sagir de Tabrani. Rabi'an min manaqibihi hirsuhu ala dukhul al-jannah wa najati min al-nar. يقول Mu'ad رضي الله عنه يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. Quatrième vertu de Mu'ad ibn Jabal رضي الله عنه, c'est qu'il était soucieux de connaître ce qui le permettrait d'entrer au paradis et d'être préservé de l'enfer. Il a été rapporté dans les recueils d'Ibn Majah et d'autres savants du hadith que Mu'ad ibn Jabal رضي الله عنه s'est présenté au prophète et lui a dit, ô prophète d'Allah, indique-moi une action qui me fasse rentrer au paradis et qui m'éloigne de l'enfer. Donc on voit bien le souci qu'avait Mu'ad ibn Jabal. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, tu as demandé une chose considérable et elle est facile pour celui à qui Allah, azza wa jal, l'a rendu facile. Wa Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, arsalahu al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ila al-Yaman, qadiyan wa da'iyan. Et Mu'ad ibn Jabal, comme c'est connu de tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé comme prêcheur et comme juge au Yémen. Wa tuwfiya sanat 18 fi Ta'un 'am wasb al-Sham. Et Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu est mort l'année 18 suite à une épidémie ou une peste qui a touché 'am wasb, qui est une ville qui se trouve au Sham. Wa lahu fi kutub al-hadith 159 hadith. Et on retrouve dans les livres de hadith 157 hadiths qui ont été rapportés par Mu'ad ibn Jabal. Voilà pour ce qui est des deux rapporteurs du hadith, Abi Dharr Jundub ibn Junadah et de Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu. Thaniyan, manzilatul hadith. Deuxième point que nous allons voir, c'est l'importance du hadith. Hada al hadith qa'idatun min qawa'id al-din. Ce hadith est un des fondements de notre religion. وهو منهج للمسلم يسير عليه في حياته وفي تعامله مع الله وفي تعامله مع نفسه وفي تعامله مع الناس. Donc ce hadith, c'est même une voie, une méthodologie que le musulman emprunte dans sa vie et dans son comportement avec Allah Azza wa Jal, dans son comportement avec lui-même et dans son comportement avec les gens. Et en cela, le hadith est un fondement des fondements de l'islam. Thalithan, ma yustafadu min al-hadith. Troisièmement, quelles sont les leçons, les enseignements à retenir de ce hadith? Et nous allons en citer 15, incha'Allah ta'ala. Al-fa'idatu l'oula min hada al-hadith, hirsu al-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ala ashabihi wa ala ummatihi bitawjihihim lima fihi al-khayru wa al-naf'u wa al-salah. في الدنيا والآخرة وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Première leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que ce hadith met clairement en évidence l'acharnement, le souci du prophète صلى الله عليه وسلم pour ses compagnons et pour sa communauté. Car le prophète صلى الله عليه وسلم nous oriente vers le bien et nous oriente vers ce qui nous est profitable dans cette vie et dans l'autre. Et ceci, on le tire directement de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, crains Allah, azza wa jal, là où tu te trouves, fais suivre une mauvaise action d'une bonne action, elle l'effacera, et comporte-toi bien avec les gens. Al-fa'ida thaniya min hadha al-hadith أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه بين ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الله تعالى، وهذا في قوله اتق الله حيثما كنت. والحق الثاني حق النفس، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والحق الثالث حق الناس، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. Deuxième leçon que l'on peut retenir dans ce hadith, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم a rassemblé dans ce hadith trois droits très importants. Le premier droit, c'est le droit d'Allah عز وجل. On le retrouve dans la parole du prophète lorsqu'il dit « Crains Allah où que tu te trouves ». Le deuxième droit, c'est le droit de la personne sur elle-même. Et on le retrouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Et fais suivre une mauvaise action d'une bonne action, elle l'effacera. » Et le troisième droit, c'est le droit des gens, et on le retrouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Et comporte-toi bien avec les gens. » Al-fa'idatu thalitha fi hadha al-hadith wujub taqwa Allah jalla wa ala fi ayyi makanin wa fi ayyi zamanin wa fi ayyi hal. وفي السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يرونه فتقوى الله عز وجل ليست خاصة بمكان دون مكان وليست خاصة بزمان دون زمان بل تؤمر حيث كان العبد وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت. Troisième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que ce hadith nous enseigne l'obligation de la crainte d'Allah, taqwallah. Et ceci en tout endroit, ceci à toute époque, ceci à tout moment, et ceci dans toute situation. En privé et en public, là où les gens nous voient, ou là où les gens ne nous voient pas. Et la crainte d'Allah azawajal n'est pas spécifique à un endroit particulier. Elle n'est pas spécifique à un moment particulier. Elle n'est pas spécifique à une époque particulière. Ou elle n'est pas spécifique à une situation particulière. Mais elle doit s'appliquer et elle doit nous accompagner dans toute situation, à tout moment et à tout endroit. Et cela, on le tire directement de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Crains Allah là où tu te trouves ». Et la particule « haythu » en arabe signifie le temps et signifie l'endroit. Al-fa'idatu al-rabi'a anna fil hadith dalalatan ala al-amr bi-istish'ari muraqabati Allahi azza wa jalla lil-'abd. في كل مكان وفي كل زمان وفي أي حال الله عز وجل يرانا وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. La quatrième leçon de ce hadith, c'est que ce hadith est une preuve que la personne doit prendre conscience qu'Allah عز وجل l'observe. Quelle que soit notre situation, quel que soit l'endroit où on se trouve, quelle que soit l'époque ou le moment dans lequel on est, on doit prendre conscience qu'Allah عز وجل nous observe. Subhanahu wa ta'ala. Et ceci, on le tire directement de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, crains Allah là où tu te trouves. Al-fa'idatu al-khamisa min hadha al-hadith fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillah. Fama ma'na taqwa. La cinquième leçon que l'on peut tirer de ce hadith concerne la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, ittaqillah, crains Allah. Que veut dire et que signifie la taqwa? التقوى لغة أن يجعل الإنسان بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه. Le mot taqwa dans la langue arabe, du point de vue linguistique, signifie mettre une barrière, mettre une protection, un rempart entre nous et ce que l'on craint pour en être protégé. والتقوى في الشرع أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وغضب الله وقاية. وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي خالصة لوجه الله ووفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et le mot taqwa, du point de vue religieux, signifie mettre entre nous et la colère d'Allah, et mettre entre nous et le châtiment d'Allah عز وجل une protection. Et comment? En observant les obligations et en s'éloignant des interdits. Sincèrement pour Allah Azza wa Jal et conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa maratibul amri bit taqwa fil Qur'an thalath. Et l'ordre de la taqwa dans le Coran est de trois sortes. Al-martabatu l'oula taqwa umira biha an-nasu jami'an. Ka qawlihi ta'ala ya ayyuha an-nas ittaqu rabbakum. Ma'naha haqqiqu at-tawhid wa tabarra'u min ash-shirk. Première sorte d'ordre de la taqwa qu'on retrouve dans le Coran, c'est l'ordre de la taqwa qui est donné aux gens en général. Comme lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Ô vous les gens, craignez votre Seigneur. » Et cette forme de taqwa signifie « réaliser le tawhid et désavouer le shirk. » Al-martabatu thaniya taqwa umira biha al-mu'minun. Ka qawlihi ta'ala ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah. Wa ma'naha i'malu bita'ati Allah wa jtanibu ma'asiyatahu. La deuxième sorte d'ordre de taqwa que l'on retrouve dans le Coran, c'est l'ordre de la taqwa qui est donné aux croyants. Comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, craignez votre Seigneur. » Ici, cela signifie « Agissez selon l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla et éloignez-vous de ses interdits. Ainsi, vous craindrez votre Seigneur, son châtiment et sa punition. » Al-martabatu thalitha, تقوى أمر بها من هو متصف بها كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله. هذا ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي الله، معناها أثبت على تقوى الله وما تقتضيه. troisième sorte d'ordre de la crainte d'Allah عز وجل que l'on retrouve dans le Coran, c'est l'ordre de la taqwa qui est donné à celui qui possède déjà cette taqwa. Comme lorsqu'Allah عز وجل dit au prophète « Ô prophète, crains Allah Azza wa Jal » dans le sens du verset. Et ici, cette forme de taqwa signifie « Sois ferme et reste constant dans la crainte d'Allah » et ce qu'implique cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Al-fa'idatu s-sadisa min hada al-hadith anna fihi dalalatan ala ahammiyati taqwa fi d-din wa dhalika anna taqwa Allah Azza wa Jal wasiyatu Allah lil-awwalin wal-akhirin » ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. La sixième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'il y a dans ce hadith une preuve de l'importance qu'occupe la taqwa dans notre religion. En effet, la crainte d'Allah Azza wa Jal et la recommandation d'Allah au premier et au dernier parmi les hommes et ses créatures. Et c'est aussi la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté. Allah Azza wa Jal dit, nous vous avons recommandé à vous et ainsi à ceux à qui le livre a été donné avant vous de craindre Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une exhortation et les compagnons lui ont demandé des recommandations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une série de recommandations et il a commencé en disant, je vous recommande la crainte d'Allah. Donc ceci montre l'importance qu'occupe la crainte d'Allah dans notre religion. الفائدة السابعة في هذا الحديث أن فيه إشارة إلى العلم وفضله. ومن أين أخذنا هذه الفائدة من هذا الحديث؟ وما هي العلاقة بين التقوى وبين العلم؟ إذ الحديث ليس فيه ذكر للعلم ولا للعلماء البتة. La septième leçon que l'on peut retirer de ce hadith, c'est qu'il y a dans ce hadith, celui qui médite et qui observe, une indication à l'importance de la science et de son mérite. On peut se demander d'où pouvons-nous tirer cette leçon de ce hadith et quelle relation existe-t-il entre la taqwa, la crainte d'Allah et la science. Puisque effectivement dans ce hadith, ni la science, ni les savants n'ont été mentionnés et n'ont été cités. الجواب هو أن تقوى الله عز وجل كما قلنا هي الوقاية من عذاب الله بفعل الطاعات واجتناب النواهي وفعل الطاعات واجتناب النواهي لا بد له من معرفة لا بد من معرفة النواهي ومن معرفة الأوامر وهذا لا يتحقق إلا عن طريق العلم فبالعلم نعرف الأوامر وبالعلم نعرف النواهي لذا كان السلف رحمة الله عليهم يقولون من كان لله أعلم كان لله أخشع وأتقى. وقبل ذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. انظروا العلاقة بين العلم والتقوى. La septième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, donc comme nous avons dit, c'est qu'il y a une indication entre la science et la taqwa. Et d'où tire-t-on ceci? La réponse, c'est que la taqwa, comme nous l'avons dit précédemment, c'est de se protéger de la punition et du châtiment d'Allah Azzawajal en observant ses ordres et en évitant ses interdits. Et ceci exige préalablement, c'est-à-dire observer les ordres d'Allah, et s'éloigner de ses interdits exige préalablement de connaître les ordres d'Allah et de connaître les interdits. Ou sinon, on ne peut pas mettre en pratique la taqwa. Et ceci n'est possible, on ne peut mettre en application ce qu'implique la taqwa d'Allah Azzawajal, on ne peut observer les ordres d'Allah et éviter ses interdits qu'avec la science. Parce que c'est avec la science qu'on connaît les ordres d'Allah Azzawajal et c'est avec la science qu'on connaît les interdits. Et c'est pourquoi les pieux prédécesseurs disaient « Celui qui connaît le mieux Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui le craint le plus. » Et Allah azza wa jal dans le Coran aussi dit « Ceux qui craignent le plus Allah parmi ses serviteurs, ce sont les savants. » Regardez la relation qu'il y a entre la crainte d'Allah et la science. Al-fa'idatu thamina min hadha al-hadith فيه الحث على اتباع السيئات بالحسنات فإذا فعل العبد سيئة فليتبعها بحسنة وهذا أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. La huitième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'il y a une incitation, un encouragement à faire suivre une mauvaise action par une bonne action. Lorsque la personne commet des péchés, commet des mauvaises actions, commet des erreurs, qu'il fasse suivre ces mauvaises actions par une bonne action. Et cet enseignement, on l'a directement tiré de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Fais suivre une mauvaise action d'une bonne action, cette bonne action l'effacera. » Al-fa'ida tut-tasi'a anna al-hasanati tamhu as-sayyi'at. Wa hadha fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. La neuvième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que les bonnes actions effacent les mauvaises actions, et ceci on le tire directement de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Et fait suivre une mauvaise action d'une bonne action, elle l'effacera. » وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَأَحَادِيثٌ مُتَضَافِرَةٌ. Et il y a beaucoup de versets dans le Coran qui vont dans ce sens, et il y a beaucoup de hadiths prophétiques qui vont dans ce sens, et on va en citer quelques-uns. C'est-à-dire qu'ils vont dans le sens que les bonnes actions effacent les mauvaises actions. جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه الآية عليه فقال رجل من القوم أله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هي للناس جميعا. Donc il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari de Muslim, d'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'un homme a embrassé une femme. Et cet homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'en informer. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est tu. Jusqu'à ce qu'Allah, azzawajal, descende le verset suivant, où Allah, azzawajal, dit, accomplit la prière aux deux extrémités du jour, et à certains moments de la nuit, les bonnes actions dissipent les mauvaises actions. Et cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Donc on voit bien que les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Alors le prophète sallam a lu ce verset à cet homme, et un homme a dit, est-ce pour lui uniquement un prophète d'Allah? Et le prophète sallam a dit, non, ce verset, c'est pour tout le monde. Et le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من أظفاره. Et il a été rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait l'eau d'eau et qui les fait avec perfection, ses péchés sortiront de son corps jusqu'à sortir en dessous de ses ongles. Donc encore une attraction qui fait effacer les péchés. وجاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari et de Muslim que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: que pensez-vous si l'un d'entre vous avait devant sa porte une rivière dans laquelle il se laverait 5 fois par jour? Resterait-il des saletés dans son corps, sur son corps? Ils ont dit non au prophète d'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tel est l'exemple des 5 prières par lesquelles Allah azza wa jal efface les péchés. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sahih al-Bukhari wa Muslim: man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et dans l'authentique de Bukhari et de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui jeûne le mois du Ramadan en croyant qu'Allah Azza wa Jal l'a rendu obligatoire et en recherchant la récompense auprès d'Allah, Allah lui pardonne à cette personne les péchés antérieurs. وجاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Il a été rapporté dans le Bukhari de Muslim, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui fait le pèlerinage, sans dire de propos grossiers et sans commettre de péché, il sortira, il reviendra de son pèlerinage comme le jour où il est sorti du ventre de sa mère. Donc, tout ceci, tous ces hadiths que nous venons de citer, c'est autant d'actes et d'actions qui montrent que les bonnes actions effacent les péchés. Al-fa'idatul ashira. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في الحسنة التي تمحو السيئة إلى قولين. القول الأول: يراد بالحسنة التوبة من تلك السيئة. والقول الثاني: يراد بالحسنة على عمومها. La deuxième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que les hommes de science ont divergé sur la bonne action qui efface la mauvaise action en 2 avis. Quelle est cette bonne action citée dans le hadith du prophète qui vient effacer les mauvaises actions? Certains savants, et c'est le premier avis, ils ont dit: le sens de la bonne action, c'est le repentir de cette mauvaise action. Et le deuxième avis, c'est que le sens de la bonne action, c'est toute bonne action en général. وجمهور العلماء رحمة الله عليهم على أن الحسنات تكفر الصغائر وأما الكبائر فلا بد لها فيها من توبة وإن كانت السيئة متعلقة بحق العباد فلا بد فيها من أداء الحقوق لأهلها. Et les hommes de science, et ceci est la parole de la plupart des hommes de science, ils sont d'accord pour dire que les bonnes actions effacent les petits péchés. Quant aux grands péchés, ils exigent obligatoirement le repentir. Et si la mauvaise action est liée avec une personne, alors on doit s'acquitter du droit de la personne lésée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, et c'est comme ça qu'on doit comprendre beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens, « قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. » وهذا في صحيح مسلم. Il a été rapporté dans l'authentique de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 5 prières quotidiennes, la prière du vendredi au vendredi suivant, le jeûne du Ramadan jusqu'au Ramadan suivant, efface les péchés commis entre elles, à condition d'éviter les grands péchés. Parce que les grands péchés exigent obligatoirement une tawbah, un repentir. Al-fa'idatu al-hadiyata 'ashar min hadha al-hadith al-hathu 'ala at-tawbati wal-istighfar wal-'amal as-salih wa anna 'ala al-insan إذا فعل سيئة ألا يصر عليها بل يتوب ويستغفر ويعمل الصالحات وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وجاء معنى ذلك في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَى اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. La 11e leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'il y a une incitation, un encouragement au repentir. Il y a une incitation, un encouragement à demander pardon. Et il y a une incitation et un encouragement à accomplir des bonnes actions. Et aussi, si la personne commet une mauvaise action, elle ne doit pas persister dans cette mauvaise action. Au contraire, elle doit plutôt se repentir, demander pardon à Allah Azza wa Jal et faire des bonnes actions. Et ceci, on le tire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Et fait suivre d'une mauvaise action une bonne action, cette bonne action l'effacera. » Et on retrouve le sens de ce hadith dans la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit « Et ceux que s'ils ont commis une turpitude et qu'ils se sont fait du mal, c'est-à-dire en accomplissant des mauvaises actions, des péchés, ils se souviennent d'Allah, ils demandent pardon à Allah Azza wa Jal pour leurs péchés, et ils ne persistent pas dans le mal qu'ils ont fait. » الفائدة الثانية عشر أن الحديث دليل على رأفة الله عز وجل وفضله ورحمته بعباده إذ شرع الله عز وجل لنا ما يكفر السيئات فإنه لا بد لنا أن نقع أحيانا في تفريط التقوى إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحظورات فأمرنا الله عز وجل بفعل ما يمحو ذلك التقصير وهو أن نتبع السيئة بالحسنة وهذا فضل من الله ونعمة وهذا أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. La deuxième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que ce hadith est une preuve de la grâce d'Allah Azza wa Jal, de sa clémence, de sa compassion envers ses serviteurs. Car Allah Azza wa Jal leur a légiféré ce qui efface leurs péchés. En effet, la personne parfois manifeste obligatoirement des manquements par rapport à la crainte d'Allah Azza wa Jal, soit en délaissant certaines obligations, ou soit en accomplissant certains interdits. Et ainsi Allah Azza wa Jal leur a ordonné d'accomplir ce qui va pardonner ses péchés et ce qui va pardonner ses manquements envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire en faisant suivre une mauvaise action d'une bonne action, car elle effacera. Et ceci est une grâce d'Allah Azza wa Jal et un grand bienfait de sa part envers ses serviteurs. Allah Azza wa Jal nous ordonne la crainte d'Allah. Si on commet des erreurs, et forcément on va commettre des erreurs, parce que le prophète sallam dit « Kullu bani adam khatta wa khairu khatta'in at-tawwabun » Tous les hommes font des erreurs, et le meilleur d'entre eux sont ceux qui se repentent. Et ceci, on le tire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Et fait suivre une mauvaise action d'une bonne action, cette bonne action l'effacera. » Al-fa'idatu thalithata ashar, al-hathu wa al-targhib على مخالقة الناس بالأخلاق الحسنة وهذا أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. 13e leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'il y a une incitation, un encouragement à bien se comporter avec les gens en général. Et ceci, on le tire de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit « Et comporte-toi bien avec les gens. Et comporte-toi d'un bon comportement avec les gens. » الفائدة الرابعة عشر أن حسن الخلق من خصال التقوى التي لا تتم التقوى إلا به فلماذا أفرد النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق بالذكر مع أنه من التقوى. La quatorzième leçon, c'est que le bon comportement fait partie des caractéristiques de la taqwa, sans lequel la taqwa ne peut s'accomplir et être complète, totale et parfaite. Il n'y a pas de taqwa complète sans bon comportement. Et ici, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a-t-il cité le bon comportement alors qu'il fait déjà partie de la taqwa? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première recommandation qu'il a donnée dans ce hadith, c'est ittaqillah, crains Allah. Et le bon comportement fait partie de la crainte d'Allah, azza wa jal. Donc pourquoi ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité en particulier le bon comportement? قال أهل العلم إنما أفرده النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر للحاجة إلى بيانه فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحقوق الله دون حقوق الناس وليس الأمر كذلك بل تقوى الله عز وجل تشمل القيام بحقوق الله وحقوق الناس وهذا هو المطلوب شرعا وهذا أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Donc la réponse à la question de tout à l'heure, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le comportement alors qu'il faisait déjà partie de la recommandation lorsqu'il dit « Crains Allah Azza wa Jal ». Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité encore une fois parce que beaucoup de gens croient que la taqwa consiste à n'observer que les droits d'Allah Azza wa Jal en négligeant les droits des gens. Et ceci est faux et ceci est une erreur. Car la crainte d'Allah Azza wa Jal, elle englobe le fait d'observer les droits d'Allah et le fait d'observer les droits des gens. Ceci est demandé religieusement. Et cette leçon, nous la tirons de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, crains Allah Azza wa Jal, où que tu te trouves, fais suivre une mauvaise action par une bonne action, cette bonne action l'effacera, et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Al-fa'idatul khamisata ashar, anna l'islam yad'u ila al-akhlaq al-hasana. وينهى عن مساوي الأخلاق فالمسلمون أولى بالأخلاق الحسنة من غيرهم من الأمم كما أن أهل السنة والجماعة أولى بالأخلاق الحسنة من غيرهم من الفرق. La quinzième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, et c'est la dernière que nous allons citer, c'est que l'islam appelle vers les nobles caractères et l'islam interdit les mauvais comportements. Et les musulmans sont plus en obligation d'acquérir les nobles caractères que toute autre communauté. De même que les gens de la sunna et de la jama'a sont plus en obligation d'acquérir les nobles comportements plus que tout autre groupe. Donc, on a terminé avec ce hadith et on va le lire une dernière fois. An Abi Dharrin, Jundub ibn Junadah, wa Abi Abdirrahman, Mu'ad ibn Jabal, رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. D'après أبي ذر جندب ابن جنادة et أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, crains Allah azza wa jal, là où tu te trouves, fais suivre une mauvaise action d'une bonne action, elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Et le hadith est rapporté par At-Tirmidhi, c'est un hadith bon, et dans d'autres, il est dit que c'est un hadith hasanun sahih. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.